à votre santé. 135e émission de l'Association citoyenne pour des centres de santé dans le Pays de Valois. Bonjour les auditrices, auditeurs de RVM. Je suis donc Hélène Mazur au micro. Et aujourd'hui, nous accueillons une invitée.
Sandrine.
Et nous avons bien sûr...
Les deux vice-présidents, Daniel Cléo. Bonjour les amis du 93.7.
Et Christian Max.
Nous, vous comprenez bien que si nous avons une invitée, c'est qu'elle va nous parler d'un domaine qui est le sien et qui nous intéresse. Alors Sandrine,
bonjour.
Vous vous présentez ?
Qui Alors je m'appelle Sandrine, je suis originaire du Sud et je travaille à la pharmacie du Valois, à Crépy-en-Valois, depuis on va dire pratiquement 5 ans.
Et quelle formation il faut pour être préparatrice en pharmacie ?
Alors, à mon époque, il fallait sortir de 3e et avoir un cursus de 5 ans.
Donc, il n'y a pas longtemps, à votre époque.
Oh, mon époque, c'était charrier. Les années 92-94.
Oh là là là,
ça me semble lointain.
Ouais, d'accord. Ouais.
Mais il fallait un cursus qui était décomposé de 2 années de vendeuse en pharmacie, puis par une année de d'années complémentaires hein, qui s'appelait la mention, puis après 2 années de BP, donc BP de brevet professionnel en préparateur en pharmacie. Voilà.
Ouais.
Après, le cursus a changé. Voilà, je ne sais plus trop l'expliquer exactement comment ça a changé.
Il a changé en mieux ou en pire?
Je trouve pas, peut-être plus complexe. Bon, la deuxième génération, je sais qu'il fallait sortir du bac et partir 2 ans. Donc
d'accord.
Là, c'est la petite apprentie qu'on a avec nous. Je fais un petit coucou à Cynthia, d'ailleurs, qui est géniale et qui fait partie de ce cursus. Il est bien. Après, je pense que là, ça s'est compliqué avec, une insertion en fac de médecine. Mais là, je ne peux pas trop en parler. D'accord. Je ne me suis pas vraiment intéressée.
Est-ce que vous faisiez des analyses? Une époque, les préparatrices faisaient des analyses.
Analyses, non.
D'urine.
Non,
non.
Moi, personnellement, j'ai jamais fait ce genre de pratique.
Ouais.
Les seules pratiques qu'on avait, c'était beaucoup de préparation à l'époque.
Ouais.
Et maintenant, elles sont centralisées dans des sociétés qui font uniquement de la préparation et qui les acheminent sur les pharmacies de ville.
Quel type de préparation?
À l'époque, moi, à mon époque, c'était les gélules, les suppositoires, des sirops.
Ouais.
On avait beaucoup de choses à l'école. Bon, maintenant, à l'école, on vous les apprend toujours, mais malheureusement, les pratiques, quasiment plus...
Tout est industriel.
Après, il y a des grandes maisons, hein, comme, je ne sais pas si tu dois citer le nom, mais des maisons avec lesquelles beaucoup, je crois que la majorité des officines travaillent, parce que ça permet de ne pas avoir une personne qui va faire ça, ça permet de ne pas avoir des locaux spécifiques... Voilà, et surtout des substances qui risquent de devenir à péremption si elles ne sont pas utilisées dans les temps. Donc je pense que...
Est-ce que vous touchiez un peu à l'herboristerie?
Non, moi personnellement, je ne suis jamais passée par
une pharmacie spécialisée.
Alors, en quoi consiste exactement votre métier de préparateur en pharmacie.
Voilà.
Oui.
Alors, notre métier, c'est d'accueillir le client, de faire une délivrance de médicaments suite aux ordonnances, du conseil, une écoute aussi, parce que chose que moi personnellement, je trouve ça important dans mon métier. J'ai beaucoup d'empathie envers mes clients et ça, c'est des choses que je ne verrais pas différemment. Donc le conseil. Après, bon, il y a certains de mes collègues qui sont un peu plus spécialisés sur tout ce qui est les produits dermatologiques, la cosmétologie. Là, moi, c'est pas ce que je recherche dans ce métier, donc c'est pas le terrain où je vais essayer de m'engager et de prospecter.
Oui, il y en a qui sont plus, qui connaissent mieux le matériel aussi.
Oui, le matériel médical aussi, voilà. Bon, moi, je vais délivrer... Je vais faire de la délivrance d'orthèse, tout ce qui est ceinture, genouillère, chevillère, prise de mesure de bas, tout ça, je suis opérationnelle. Mais après, ce n'est pas des terrains dans lesquels je vais vraiment apprécier être. Moi, je préfère la délivrance, le contact au client. Ça, c'est...
Donc, la délivrance, donc vous pouvez délivrer les médicaments à partir d'une ordonnance.
Oui.
D'accord.
On part du donc l'accueil, déchiffrage, voilà. Délivrance, explication aux clients, facturation. Ça, c'est notre travail.
C'est ce que j'allais revenir, le déchiffrage. Comment vous faites pour lire les ordonnances?
Je pense que c'est question d'habitude. Vous avez fait des stages? Non, on n'a pas des stages. On se demande si certains médecins doivent avoir plutôt un cursus de comment écrire mal, comment mal écrire. Mais non. Après, c'est question d'habitude, on les relit. Et bon, des fois, entre nos collègues, on s'entraide quand on a un petit couac. Mais il y a parfois aussi qu'avec l'analyse de la prescription, il va y avoir, s'il y a une ligne où on a une petite hésitation, forcément, avec le reste de la prescription, il va y avoir...
Vous avez besoin de vous concerter des fois
pour ça. Des fois, on va s'aider, si on a un petit doute. Et si vraiment, parce que c'est arrivé des fois, ou que ce soit mes collègues et même mon patron, on ne sait pas, on appelle le médecin.
Il faut appeler le médecin.
Sait bien qu'il y a cette garantie.
Et en fonction du patient, vous avez quand même des critères.
On a aussi ce qu'on appelle le passif du médecin. On a son historique. Donc, des fois, on s'aide aussi avec l'historique. Et même des fois, les médecins se trompent de dosage parce qu'ils partent sur... Donc, avec l'historique, on vérifie...
Alors, vous venez de parler un petit peu de vos collègues, de votre patron. C'est une grande pharmacie, la pharmacie du Valois. Alors, vous êtes combien? Comment vous travaillez? Il y a un peu de travail en équipe? Comment ça se passe?
Oui, il y a un travail en équipe, il y a un échange. Vu qu'il y a des jours de repos dans la semaine, donc forcément, on ne va pas tous être ensemble au même moment. Mais sinon, oui, on a un effectif avec l'optique qui doit être une dizaine de personnes à peu près.
Ah oui. Oui,
après, on travaille pas tous en même temps parce que forcément, il y a les jours de repos qui font que.
C'est quoi votre temps de travail?
En temps de travail hebdomadaire, 35 heures.
Ouais. D'accord. Effectivement, il faut un roulement.
Enfin, moi, j'ai vraiment beaucoup d'admiration pour vous, votre équipe, parce que je les ai vus déjà charrier les cartons jusqu'au coffre de la voiture. Non, mais c'est vrai, il faut le dire. On dit que ce n'est pas un commerce ordinaire, c'est à l'écoute.
Il y a l'écoute du client.
Ça fait du bien. Ouais.
Mais on se doit d'être là, d'avoir une oreille attentive et de ne pas être là et de ne pas faire uniquement mécaniquement. Moi, je ne pourrais pas, en tout cas, pourrais pas travailler dans ce genre de...
C'est vrai.
Eh bien, c'est bien de le savoir.
C'est bien d'être venu nous voir en plus. C'est bien. Bon, vous êtes voisine, ça va, il n'y a pas de déplacement.
Non.
Alors voilà, on a vécu 2 ans de pandémie. Je dis on a vécu, on n'a pas terminé. À l'heure, Christian va nous faire un point parce que c'est pas si simple. Comment ça s'est passé pour vous à la pharmacie quand il y a eu le confinement, les protocoles
Je pense que nous, on a ressenti vraiment le phénomène arriver au moment du décès du patient qui a été dénommé patient zéro. Pour lequel donc c'était un patient que personnellement, je ne connaissais pas physiquement, mais je n'avais juste entendu son nom parce que c'était le professeur de mon fils. À cette époque-là, professeur de technologie de mon fils. Donc, je ne sais plus le jour exact, je ne pourrais plus le dire, mais le jour où ça s'est su, où j'étais devant ma télévision et je vois dans le bandeau un professeur du collège Jean de la Fontaine de Crépure-Valois vient de décéder. À ce moment-là, j'avais mon fils qui avait 13 ans, je ne sais plus, qui était malade. Mais bon, sans me préoccuper spécialement, il était malade. Donc, quand je suis arrivée à 14h au travail, j'en discute avec mes collègues. Et là, mes collègues m'ont dit, oulala, tout de suite, il faut que tu préviennes. À l'époque, c'était le numéro qu'on nous avait... Oui. On avait mis un numéro en place. Et tout s'est enroulé parce qu'on a pu penser que... Parce qu'il avait été en contact 48 à 72 heures avant son arrêt maladie. Et de là, c'est vrai que tout a été très vite après. Parce que... Jusqu'à ce jour-là de février, le Covid, on le vivait plus dans les médias, en direct de la Chine. Personnellement, on n'avait pas ce ressenti. Même moi, je pensais que ça... Je reconnais, je pensais que c'était une grippe où on en faisait beaucoup tout autour. Le vrai du faux, je pense qu'on ne le saura jamais, malheureusement.
Oui, c'était le 26 février 2020.
Enfin, c'était 26 février. Je savais que c'était en février 2020, mais après, je n'avais plus la date.
Puis après, ça a continué. Il y a eu Madame Demand qu'on connaissait.
Je me rappelle.
Ce qu'on aimerait savoir, c'est un petit peu, qu'est-ce que ça a bouleversé au niveau de votre travail à la pharmacie?
Alors, beaucoup de contacts, le contact qui a voulu s'éloigner. Alors là, on avait diverses personnes. Il y avait les personnes qui étaient éloignées avec nous, qui avaient peur de la maladie, des personnes qui n'en avaient pas peur, puisqu'on ne savait pas trop le vrai du faux. Puis après, il y a eu donc les masques qui ont été mis en place, le confinement. Le fameux confinement où on a cru qu'on était en temps de guerre, parce que quand ils ont annoncé la première période, je parle vraiment du vrai premier confinement, celui qui a vraiment le nom de confinement, donc qui devait démarrer un lundi à 14h, quelque chose comme ça. Et ce matin-là, il y avait un monde qui arrivait à la moitié du parking de Carrefour, parce que ça allait de médicaments, mais aux boîtes de lait, aux brosses à dents. Et je me rappelle ce jour-là, je disais aux patients, je disais non, mais vous inquiétez pas, vous aurez le droit de sortir pour vous venir à la pharmacie. Et il y a eu un amalgame, je pense que... Voilà,
une panique.
Mais d'où, je pense que les médias en sont responsables, malheureusement. Ça, c'est...
D'accord, donc c'est surtout ça que vous avez ressenti. Après, il y a eu, si j'ose dire, le rythme de croisière.
Oui.
Et vous avez été amené à faire des tâches que vous ne faisiez pas auparavant.
Nettoyer, ça, c'est classique dans une pharmacie. Après, désinfecter les comptoirs avec mes collègues, on les faisait toutes les 10-15 minutes. Après, on avait mis...
Toutes les 10-15 minutes,
il
fallait désinfecter.
Premier temps, on désinfectait beaucoup à l'alcool 70, pour que ça soit vraiment bien nettoyé. Parce que comme on ne savait pas trop rapport au postillon, tout ça, le toucher. Et après, il y a une psychose, forcément. Il va y avoir des gens qui sont plus psychotiques que d'autres. Mmh. Après, on avait fait une limitation avec des caisses, je pense que vous vous rappelez.
Oui,
après,
Monsieur
Lefebvre avait placé des petites plaquettes plexiglas sur certains comptoirs, parce que d'autres, ce n'est pas pratique. Après, en aucun cas, on a empêché les clients de rentrer. De toute façon, je pense que la personne en elle-même sait qu'elle doit faire attention si elle est contaminée ou pas. Ça doit venir de soi, je pense.
On voit un petit peu. Donc, ça, c'était les moments, d'intensité, quoi, et de tension. Alors là, on est maintenant dans une période où, semble-t-il... on peut être plus tranquille, on nous dit toutes sortes de choses pour nous tranquilliser, c'est-à-dire les taux ont baissé, ça va être la saison, etc. Mais là, je vois Christian qui me fait des grands signes. Il a été travailler sur les chiffres, il va nous dire où nous en sommes.
Donc, relevé cet après-midi vers 14h sur Covid Tracker, comme toujours, le taux d'incidence nationale est en hausse. Le taux de reproduction est en hausse aussi, et surtout, le plus embêtant, c'est qu'il a dépassé 1, ça veut dire que l'épidémie recommence à progresser. On est à 1,03, à 0,79 il y a une semaine. Par contre, le taux d'hospitalisation, lui, continue à diminuer.
Bien bon.
Mais ça, c'est plutôt bien. On était à 38%, on passe à 33%. Le nombre de personnes en soins critiques continue à diminuer. Le nombre de décès chaque jour continue aussi à diminuer.
Bon.
Donc, tout ça, c'est très bien. Et dans l'Oise, donc, le mouvement est le même.
Donc, dans la moyenne nationale.
On est à 449. Nous, la moyenne nationale, c'est 686.
D'accord.
Donc, le record, c'est Mayotte avec 15.
Voilà, Mayotte.
Et le record dans l'autre sens, c'est la Martinique avec 3182.
Voilà, d'accord.
Voilà. Et dans la France métropolitaine, le pire pour l'instant, les pauvres, ce sont les Ardennes avec 1342, alors qu'ils sont parmi les plus vaccinés.
Ah ouais, là, je ne comprends pas.
D'accord. Je
ne comprends pas. Ouais.
Ah oui, non.
D'accord.
Ce qui est important, à mon avis, c'est que le taux d'hospitalisation, le nombre de soins critiques et le nombre de décès diminuent.
Oui.
Oui. C'est-à-dire que, voilà, c'est ce qu'on nous dit depuis le début, que la vaccination permet d'éviter les formes graves.
Oui, ne permet pas la maladie.
Voilà, n'empêche pas d'attraper et de communiquer la maladie. Ça, c'est une chose.
C'est reparti avec le retour des élèves dans les collèges, les lycées, les écoles.
Mais à un moment donné, de toute façon, on ne peut pas arrêter l'école définitivement, si ça serait la seule solution, c'est pas envisageable.
Bah, c'est de mieux protéger. Donc, alors, comment fait-on? Là, on vient de leur dire d'enlever les masques. C'est vrai que les gamins, c'est pas drôle, et les gamines. À un moment donné, il y a la question de l'aération qui se pose. Bon, ils sont combien par classe? Comment on peut aérer? Moi, je pose la question hein, quand même. Hein. Oui. Ça, c'est important. Et puis, les lieux de restauration.
Oui.
Puisque là... Alors, Christian, il veut me dire quelque chose là-dessus.
Oui, parce que j'ai lu récemment le compte-rendu du comité d'hygiène et de sécurité académique, donc qui concerne les enseignants. Et les enseignants ne sont pas contents du tout parce qu'ils s'aperçoivent qu'on continue à leur supprimer des postes dans l'académie. Donc, on continue à faire augmenter les effectifs par classe.
Ah ben voilà.
Et voilà. Et donc, pendant ce temps-là, bah, les aérations, bah, faut pas trop compter dessus, quoi.
Bien sûr.
Dans les communes, sont elles qui payent. Celles qui veulent bien le faire le font, mais pas toutes. Et alors, dans les collèges et les lycées, comme c'est le département et la région, là, c'est rien du tout. Hein.
Après, si on manque de personnel, forcément, de toute façon, ça va...
Oui. Et alors que, justement, donc l'autre aspect...
Ça va pas s'arranger dans ces tranches d'âge, quoi.
Voilà.
Entre 6 et 20 ans, ça va continuer à progresser, l'épidémie.
Hein. Eh oui, puisque c'était la tranche la plus touchée. Et l'autre aspect, c'est la question du rattrapage, parce que quand même, pendant le confinement, il y a eu des pertes sèches. Hein. Et là, il n'en est pas du tout question au ministère. On estime que tout a été rattrapé. Ce n'est pas ce que disent non plus les enseignants. Et tout ça, c'est pas bon. Pour le moral, parce que ces jeunes, ils ont été quand même durement touchés. Vous en avez eu.
Oui, moi, j'ai ma fille qui est rentrée au lycée en pleine période de première épidémie. Et elle sort du lycée, là, donc cette année. Et comme elle me dit, des fois, elle me dit, on nous a volé nos années lycée. Alors, c'est sûr qu'ils voient ça avec leurs yeux. Hein.
Ben, c'est normal. Hein. C'est normal.
Donc, plus de voyages scolaires, plus d'échanges, plus de sorties, plus de... Les enfants sont quand même privés.
C'est vrai.
Ils vivent l'épidémie. Je pense que ça leur laissera des traces.
Oh, bah.
Et je pense qu'il y aura le après-Covid qui, lui, va être beaucoup plus meurtrier psychologiquement pour les enfants plus tard. Parce que c'est comme le port du masque. Je pense qu'il y aura des répercussions à un moment donné où on se rendra compte que...
Ça, on s'en doute, puisqu'on en a déjà parlé. Et donc, pour terminer, vous savez que notre association s'occupe de trouver des médecins, c'est vite dit. Est-ce que vous avez ressenti, à la pharmacie, des plaintes de patients qui ne pouvaient pas avoir de médecin?
Beaucoup se plaignent. Ils se trouvent anormal d'avoir des semaines et des semaines d'attente, alors que quand il y a une pathologie qui arrive là comme ça, on ne peut pas se permettre d'attendre 3 semaines pour voir un médecin. Donc, il va y avoir de l'automédication, forcément. Après, si elle est bien justifiée, ça va, mais bon, après, il y a des personnes qui vont... Et des personnes qui ne vont pas se traiter.
Voilà.
Et résultat, ça peut engendrer... trouve ça inadmissible d'avoir un délai si long pour avoir un rendez-vous. Et
vous n'avez pas senti une différence depuis qu'il y a eu l'ouverture de notre centre de santé,
avec des médecins
en plus?
Là, il y a eu on va dire... Sur 2-3 mois, à peu près, un apaisement. Les gens avaient... Il y avait plus facilement une ordonnance, plus facilement une consultation pour des petites pathologies. Hein. Quand je dis petites pathologies, c'est les gastro-entérites, les choses comme ça. Et ça s'était vraiment relativement apaisé. Or là, malheureusement, 2 médecins sont repartis. Donc on repart un petit peu dans le sens inverse, malheureusement.
Alors oui, c'est depuis décembre. Donc si vous avez eu ce départ, donc je veux dire que là, ça fonctionne avec 5 médecins, le centre de santé. On espère qu'il y aura une 6e au mois de mai, c'est ce qui était prévu. On verra. En tout état de cause, donc on vous remercie, Sandrine, parce que ça nous a donné quand même un regard.
On remercie encore tous les pharmaciens de Crépy qui ont accepté notre boîte à résultats de sondage. Hein, ils étaient vraiment compétents et vraiment gentils avec nous pour ouvrir la boîte, ramasser les collègues toutes les semaines et tout. Super. Que ça soit...
Voilà. Nous vous disons... À bientôt, les auditeurs de RVM. Vous nous écouterez le samedi à 10h30, le mardi à 13h, le jeudi à 16h. Et bien entendu, ensuite,
en podcast.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.